des calculatrices blanches. Là, les toilettes sont réservées exclusivement aux blanches. Pour un petit pipi, elle doit marcher 30 minutes à l'extérieur, jusqu'aux toilettes pour noirs, à l'autre bout du centre. Tout cela avant qu'un chef de service intervienne, décrète que la pause pipi n'est ni noire ni blanche, et mette fin à cette discrimination. Quelques semaines plus tard, Catherine obtient une promotion et est affectée à la division recherche en vol, comme calculatrice toujours. Une prestigieuse unité constituée quasi exclusivement d'hommes blancs, tous ingénieurs. Mouais, l'accueil n'est pas franchement chaleureux, vous l'imaginez. Une femme noire, vous pensez. Pour beaucoup d'hommes à l'époque, les femmes doivent rester à la maison, s'occuper du ménage et des enfants. Et si elles travaillent, c'est à coup sûr dans des emplois moins importants. Beaucoup sont carrément racistes et considèrent les Noirs comme des êtres inférieurs. Alors, que vient faire cette femme noire parmi eux? Ce qu'elle vient faire, c'est montrer ce qu'elle vaut. Et elle va vite mettre tout le monde d'accord. Sa première véritable mission est d'analyser les causes du mystérieux accident d'un petit avion qui s'est écrasé sans raison apparente. Catherine étudie toutes les données dont elle dispose. Vitesse, accélération, altitude, conditions météo. Elle multiplie calculs et graphiques et met en lumière suffisamment d'éléments pour que les ingénieurs tirent d'étonnantes conclusions. Une cause d'accident totalement inconnue jusqu'alors. Un tourbillon d'air mortel qui s'est produit à l'arrière de l'appareil et qui l'a rendu tout bonnement incontrôlable, avec une chute mortelle à la clé. Nous sommes en 1957, en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'URSS veulent démontrer leur supériorité technologique, scientifique et militaire, et ça passe par la conquête de l'espace. Elle permet de faire des avancées significatives dans la compréhension de l'univers et de développer de nouvelles technologies pour la défense, la communication, les transports et plein d'autres domaines. La conquête spatiale est aussi très importante d'un point de vue politique et symbolique. Les États-Unis et l'Union soviétique se battent pour le prestige et le statut de superpuissance mondiale. La conquête de l'espace est clairement un symbole de la supériorité scientifique, technologique, militaire. C'est la fierté de toute une nation. À de nombreux points de vue donc, la conquête spatiale est un enjeu crucial dans les années 60. Une époque où le progrès est le maître mot, et celui-ci passe par la recherche et l'innovation. L'espace est donc le terrain de jeu idéal pour que se joue ce match au sommet, suivi par la planète entière. Ce que l'on sait peu, c'est que l'histoire de la conquête de l'espace est étroitement corrélée avec l'émancipation de ces femmes noires, trop longtemps restées dans l'ombre et qui ont joué des rôles essentiels dans les progrès réalisés, et pas uniquement scientifiques. Des femmes en général sous-payées et sous-estimées en raison de leur genre, mais aussi de leur couleur de peau. Nous sommes à une époque où les premiers ordinateurs sont des machines électroniques massives, souvent de la taille d'une pièce entière. Pour la petite histoire, l'ENIAC, l'Electronic Numerical Integrator and Computer, est le premier ordinateur électronique entièrement fonctionnel construit peu après la Seconde Guerre mondiale. Il a la taille d'une salle de bal, pèse plus de 27 tonnes et utilise plus de 17 000 tubes à vide pour effectuer des calculs numériques. Le premier ordinateur IBM, l'IBM 701, est lancé en 1952. Il est destiné à des tâches scientifiques et militaires, mais ces ordinateurs sont limités en termes de capacité de stockage, de vitesse de traitement et de capacité de calcul. Ils ne semblent pas fiables à 100%. C'est pourquoi on a continué de faire confiance tout un temps aux capacités du cerveau humain. À titre d'exemple, le système informatique de la NASA utilisé pour suivre la mission de John Glenn est composé de 5 ordinateurs IBM 7090. Chacun de ceux-ci a une puissance de traitement de 2,9 millions d'opérations par seconde, ce qui est considéré comme très rapide pour l'époque. Ouais, mais en comparaison, le processeur d'un smartphone moderne peut atteindre des vitesses de traitement de plusieurs milliards d'opérations par seconde. Ça dit, ces premiers ordinateurs étaient logiquement présentés comme la pointe de la technologie, et celle-ci va évidemment se développer à une vitesse vertigineuse. Mais n'enterrons pas trop vite nos calculatrices noires, car ces femmes ont encore un immense rôle à jouer dans notre histoire. Les calculatrices noires réalisent des calculs complexes pour aider à la conception et à la construction des missions spatiales. Elles effectuent des calculs essentiels pour les trajectoires de vol, les systèmes de navigation, les systèmes de propulsion, les calculs d'entrée dans l'atmosphère et bien plus encore. Elles réalisent des calculs critiques qui permettent de garantir la sécurité et la réussite de ces missions. Mais elles sont bien plus que cela. Elles jouent également un rôle important dans la lutte pour les droits civiques. En tant que femmes afro-américaines, elles sont confrontées à la discrimination raciale et sexiste dans leur travail à la NASA et dans leur vie quotidienne. Elles travaillent dur pour surmonter ces obstacles et pour prouver leur valeur en tant que scientifiques et mathématiciennes compétentes. Leur travail ouvre la voie à une plus grande diversité dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Les calculatrices inspirent une génération de jeunes femmes et de personnes noires à poursuivre des carrières dans ces domaines. Parmi toutes ces femmes, plusieurs destins sont tout bonnement remarquables. Ainsi, celle que l'histoire retiendra sous le nom de Katherine Johnson, suite à son second mariage avec un capitaine de l'armée, fournit un travail exemplaire. Sa maîtrise de la géométrie analytique lui permet de prendre une place importante dans le travail sur le programme Mercury. Elle s'impose par ses compétences et est reconnue pour son travail. Pas normal, me direz-vous, bien sûr. Mais rappelons que Katherine Johnson travaille au NASA Langley Research Center en Virginie et, comme de nombreux États du sud des États-Unis, la Virginie est un État ségrégationniste jusqu'à la promulgation de lois antidiscriminatoires du Civil Rights Act de 1964. En 1962, la NASA prépare la mission orbitale de l'astronaute John Glenn. Et on l'a dit, c'est la mission qui doit permettre aux Américains, enfin, de marquer des points face aux Soviétiques. Un moment clé qui doit tracer la feuille de route des années suivantes, jusqu'à l'envoi d'un homme sur notre satellite naturel. Désormais, ce sont les ordinateurs qui font les calculs de trajectoire. Mais John Glenn n'est pas prêt à confier sa vie à ces nouvelles machines à calculer. Les ordinateurs sont relativement nouveaux et peu fiables. Glenn s'en méfie. Et ce qui va lui arriver va lui donner raison. Non, pas trop vite. Glenn n'est évidemment pas arrivé là par hasard. Une très longue sélection d'astronautes s'est étalée sur plusieurs années. Finalement, sept d'entre eux, tout en formant un groupe solidaire, se livrent à une compétition féroce afin d'être choisi pour la première mission. Glenn sort vainqueur de la promotion. Outre le fait d'être le pilote le plus brillant, il est aussi le plus photogénique et le seul marine, le corps d'élite de l'armée américaine. L'ampleur du défi qui l'attend est mise en évidence pendant la longue phase de préparation, quelques 3 années avant sa mission. Dans la nuit du 18 mai 1959, les 7 candidats astronautes assistent à Cap Canaveral à leur premier lancement de fusée, une SM-65 des Atlas, similaire à celle qui doit emmener le premier astronaute américain en orbite. Quelques minutes après le décollage, celle-ci explose de façon spectaculaire, illuminant le ciel nocturne. De quoi en jeter un coup moral, non ? Voyant cet événement, les astronautes sont évidemment sidérés. La réaction de Shepard, un des astronautes, est plutôt amusante. Il se tourne vers Glenn et lui dit « Eh ben celle-là, je suis plutôt ravi qu'on l'ait éliminée. » C'est donc John Glenn qui a l'honneur de prendre place dans ce qui ressemble, faut bien le dire, à une grosse boîte de conserve. Arrive donc le moment clé, enfin, celui où la NASA va montrer au monde entier ce que les Américains peuvent réaliser. ils vont passer la vitesse supérieure et damer le pion russe. Glenn va réaliser 7 orbites autour de la Terre, là où Gagarine n'a réalisé qu'un seul petit tour. Enfin, ça c'est ce qu'il espère. Mais problème, gros problème même. Peu avant le départ, les données fournies par l'ordinateur de la NASA semblent en contradiction totale avec celles fournies la veille. Ça, c'est la meilleure. C'est surtout un fameux contretemps. Et là, coup de théâtre. Exit les ordinateurs. John Glenn exige que ce soit Katherine Johnson qui vérifie les chiffres à la main. Vous avez bien entendu. Beau gosse, grande gueule. Il prononce alors cette maxime qui figure désormais dans tous les livres d'histoire de la conquête spatiale. Il déclare « Si elle décrète qu'ils sont justes, je suis prêt à y aller. » D'un coup, le stress du départ passe au rouge. Le chef de la mission est d'abord désemparé, mais il connaît le côté indomptable de son astronaute. C'est l'impasse. Et puis, pas question de prendre le moindre risque. Les moteurs de la fusée ronronnent et le compte à rebours égrène les secondes vers la mise à feu. Enfin, si mise à feu il y a. Catherine s'attelle à cette mission inattendue, elle qui a gentiment été mise de côté pour laisser place à ces fameuses machines qui la remplacent désormais. Le directeur de la NASA la rappelle en catastrophe. La réussite de la mission dépend désormais de son feu vert. Glenn s'avance lentement sur la passerelle qui mène à la capsule, mais il n'en démord pas. C'est à Katherine Johnson qu'il confie sa vie en ce moment ô combien crucial. La tension est partout. Mais Katherine reste concentrée. Elle est dans sa bulle, alors que tout s'agite autour d'elle. On ne parle pas ici de petits calculs, mais bien de la trajectoire idéale au décollage et de celle du retour dans l'atmosphère. Des trajectoires qui conditionnent la réussite de la mission et donc la vie de l'astronaute. Vladimir, l'espion russe de service, présent sur l'aire de départ, a le sourire. C'est sans doute pas aujourd'hui que les Américains vont marquer les points. Il imagine déjà le futur rapport qu'il va bientôt envoyer à ses supérieurs. Glenn est figé sur la passerelle, et toute l'Amérique peut voir en direct ces images quelque peu insolites. Mais qu'attend-il ? Se demande-t-on un peu partout. Toute l'attention est désormais centrée sur cette petite femme penchée sur ses calculs. Les minutes passent, le stress est omniprésent. Si la fusée reste clouée au sol, ce serait ni plus ni moins qu'un échec cuisant pour les Américains, qui pourraient ne pas s'en relever. Catherine s'éponge régulièrement le front, des gouttes de transpiration qui l'obligent à nettoyer ses verres de lunettes plus qu'à son tour. Tous les regards sont tournés vers elle, elle le sait, elle le sent. Après des minutes interminables, elle relève enfin la tête, au bord de l'épuisement. Elle tend la feuille sur laquelle elle a entouré le résultat de ses calculs au chef de la mission qui décroche de suite son téléphone. John Glenn reçoit cet appel qui entre dans l'histoire en direct sur la passerelle. Son visage se détend, il sourit. Et puis, d'un geste, il fait signe que tout est OK. C'est un énorme ouf de soulagement pour toute l'équipe, pour toute l'Amérique. Mais si les calculs de trajectoire vont s'avérer exacts, il faut bien avouer que la mission manque de tourner à la catastrophe. Les problèmes s'accumulent de manière incroyable. Pendant le vol, l'indicateur de cap tombe en panne et Glenn ne peut pas savoir avec précision où il se trouve dans l'orbite. Des problèmes techniques provoquent une augmentation de la température à l'intérieur du vaisseau spatial, ce qui met en danger la sécurité de Glenn. L'un des gyroscopes de la capsule tombe en panne, ce qui entraîne des oscillations incontrôlables et une diminution de sa stabilité, notamment au moment de sa rentrée dans l'atmosphère. Les nombreuses avaries permettent quand même à John Glenn d'effectuer avec succès 3 des 7 orbites prévues pendant ce vol. Glenn devient ainsi le premier Américain à orbiter autour de la Terre. Sa mission permet de prouver que les humains peuvent survivre en orbite et c'est le début de missions spatiales plus avancées. Mais ce vol a une portée plus grande. Après 3 défaites cuisantes, La dynamique change de camp, avec cette fois les Américains qui font la course en tête. Les ordinateurs sont de plus en plus présents, mais les brillantes mathématiciennes noires n'ont pas dit leur dernier mot. Katherine Johnson continue à calculer les trajectoires des engins spatiaux, notamment celles qui sont déterminantes dans le succès de la mission Apollo 11 en 1969, mission qui permet à des hommes de se poser et de marcher sur la Lune pour la première fois. Elle contribue aussi au succès de la navette spatiale. Katherine prend sa retraite en 1986, après 33 ans de carrière à la NASA. En 2017, en l'honneur de ses contributions révolutionnaires à la navigation spatiale, un nouveau centre de calcul, le Computational Research Facility, est inauguré à la NASA et porte son nom. Après avoir traversé quasi tout le XXe siècle, elle nous quitte le 24 février 2020, à 101 ans. Ses deux amies suivent quant à elles des trajectoires tout aussi impressionnantes. Mary Jackson devient la première femme afro-américaine ingénieure aéronautique de la NASA et, pour tout dire, des États-Unis. En 1979, elle est nommée directrice du programme pour les femmes à l'anglais, où elle lutte pour l'avancement des femmes, toutes couleurs confondues. Dorothy Vaughan devient la première responsable afro-américaine à la NASA. Spécialiste du langage de programmation Fortran, pionnière du calcul électronique, elle est l'un des esprits les plus brillants de la NASA. Et puis, terminons ce récit avec l'Alpha Kappa Alpha, ou tout simplement l'ACA. L'ACA est une sororité, autrement dit, une fraternité exclusivement féminine, afro-américaine, fondée en 1908 à l'université Howard, à Washington DC, aux États-Unis. C'est la première sororité créée par et pour les femmes noires aux États-Unis. Sa mission est de fournir un service et un leadership pour l'amélioration des communautés, de promouvoir l'éducation et le développement personnel, mais aussi de soutenir les droits civiques et la justice sociale. L'ACA a des milliers de membres à travers les États-Unis et à l'étranger, dont des membres célèbres comme Kamala Harris, la première femme noire vice-présidente des États-Unis, et Coretta Scott King, la veuve du défenseur des droits civiques, Martin Luther King Jr. Bien avant elle, Katherine Johnson, militante engagée pour l'égalité raciale depuis son plus jeune âge, est membre de l'ACA. Elle fait partie de ces femmes inspirantes qui ont œuvré pour changer le monde. Brillante mathématicienne, elle a également ouvert la voie vers les métiers scientifiques aux jeunes filles. Katherine Johnson fait assurément partie des femmes d'exception.